Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue sur Doula Lire, le podcast qui informe par une doula qui écoute. Doula Lire, c'est l'assemblage du mot doula, la doula ayant pour vocation d'accompagner et de soutenir les futures mères et leur entourage pendant la grossesse, l'accouchement, la période postnatale et tous les autres cas de figure autour de la grossesse et la périnatalité, en complément du suivi médical choisi par les parents. Et lire. Ici, je vous parlerai bouquins, grimoires, recueils, ouvrages, bref, je vous parlerai de livres. Mais attention, de livres tournant autour de la périnatalité. Je m'appelle Aurore Lebec, je suis l'hôte de ce podcast. À la base, je suis infirmière, mais j'ai choisi de m'orienter vers le care et le féminin. Pour cela, je me suis donc formée en tant que doula et naturopathe spécialisée dans l'accompagnement du féminin. Le savoir, c'est le pouvoir. Et autour de la grossesse, les tabous, les injonctions et les fausses bonnes infos sont légion. Alors pour ceux qui n'aiment pas lire, pour ceux qui n'ont pas le temps de lire, ou pour ceux qui veulent lire LE bon livre, je vous propose donc de retrouver ici, chaque semaine, le meilleur d'un ouvrage en périnatalité qui me passera entre les mains. Libre à vous ensuite d'aller creuser plus en lisant l'ouvrage source. Si vous aimez ce podcast, pensez à vous abonner, à laisser un commentaire et surtout à le noter. Bienvenue dans ma bibliothèque en périnatalité. Bienvenue chez Doula Lire. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Cette semaine, j'ai lu pour vous le guide de l'allaitement naturel, Nourrir son enfant en toute liberté, de Ina Megaskin aux éditions Mama Édition. Alors Ina Megaskin, elle est sage-femme aux USA. C'est le deuxième livre de Ina Megaskin dans ce podcast, d'ailleurs, vu que le tout premier épisode portait sur le guide de l'accouchement naturel qu'elle a écrit en même temps. Bref, Ina Megaskin, donc, elle est sage-femme aux USA dans une communauté The Farm. C'est une communauté qui a été formée dans les années 70. À la base, c'était une cohorte de bus qui traversait les USA et ils sont arrivés là-bas et ils s'y sont établis. Elle était à l'époque la seule à avoir déjà accouché. Alors, pour la blague, elle avait accouché, oui, sous-âgée, hein, quand même. Et vu que c'était la seule à avoir déjà un enfant, elle a été appelée pour les naissances. Elle s'y est découvert une vocation et elle s'est formée. Au niveau du sommaire, on a 16 chapitres. De la supériorité de l'allaitement. Comment fonctionne l'allaitement et comment il s'apparente au maternage. Se préparer à l'allaitement. Le déroulement de l'accouchement a un effet direct sur l'allaitement. Commencez à allaiter, les bases. Vos besoins et ceux de votre bébé pendant la première semaine. Et résoudre les problèmes durant la première semaine. Organisation du sommeil. Si vous travaillez à l'extérieur. Les trois premiers mois. Vous, pendant les trois premiers mois. Votre bébé grandit. Allaiter des jumeaux et plus. Quand les bébés tombent malades ou qu'ils sont hospitalisés. Le sevrage, quel est le meilleur moment pour sevrer? L'allaitement partagé, les nourrices et autres traditions oubliées. La tétonphobie, comment l'éradiquer en créant une culture de l'allaitement? Alors, elle commence déjà par rappeler que le nourrisson va perdre, et c'est normal, dans les 3-4 premiers jours, du poids. Il va perdre jusqu'à 10 voire 12% de son poids. En fait, c'est majoritairement deux choses. Un, l'excrétion du méconium. Alors le méconium, c'est physiologique, c'est normal, c'est collant, noir et sans odeur. C'est une substance qui se développe dans les intestins du bébé pour les empêcher de coller, techniquement même de collapser. Ça, c'est l'une des premières choses, puisque au début, il va avaler du colostrum, mais en quantité infime. Donc finalement, tout le méconium qu'il va perdre, ça va faire beaucoup plus de pertes que d'entrée. Et ça, qu'il soit allaité ou non, hein, ça c'est kiffi bourricot. Et la deuxième raison, c'est que le bébé naît avec des réserves énergétiques de naissance, c'est normal. Et ces réserves énergétiques sont faites pour que le bébé tienne et n'ait besoin que du colostrum pendant les premiers jours jusqu'à la montée de lait. Donc ça, par contre, ça va être super important qu'il y ait une montée de lait et donc que le bébé tète beaucoup, même si ce n'est que pour avoir 20-30 ml de colostrum par 24 heures. C'est normal, c'est fait pour. D'ailleurs, il va commencer à vraiment avoir faim entre J3 et J4 lorsque les réserves énergétiques de naissance seront finies. Donc, à partir de là, normalement, J3, J4, il y a la montée de lait. Donc, pas de problème, tout concorde. Il a faim, montée de lait, parfait, merci, bonsoir. Plus qu'à lancer l'allaitement, c'est encore autre chose, mais en tout cas, la perte de poids s'arrête là. En ce qui concerne les selles d'un bébé allaité, ça va commencer vers J4 ou J5. Et les selles d'un bébé allaité, alors déjà, elles ont une odeur comparée au méconium. Alors, c'est pas foufou, hein, mais n'empêche qu'elles ont une odeur. Et elles seront de couleur globalement jaune, avec une consistance entre le lait caillé, voire liquide. C'est intéressant à savoir, notamment pour des personnes qui n'ont jamais vu de selle de bébé ou qui n'ont jamais vu de bébé aussi, votre bébé n'a pas la diarrhée. C'est normal. D'ailleurs, c'est très compliqué de diagnostiquer une diarrhée chez un bébé, du coup, vu que c'est censé déjà être liquide. Donc ça va plutôt être en termes de quantité qu'on va définir une diarrhée souvent. Mais bref, c'est pas le sujet. Au niveau du comportement du nouveau-né, il faut savoir qu'il peut varier par rapport à l'allaitement selon les traitements qui ont été reçus par la mère pendant l'accouchement. Si elle a bénéficié d'une péridurale, si elle a eu une césarienne, notamment sous anesthésie générale, ça va être des choses importantes à savoir parce que l'allaitement, il va être impacté. Ça ne va pas empêcher un allaitement, mais l'allaitement sera impacté et ce sera vraiment important d'en parler pour pouvoir agir au mieux. Parce que le bébé va être peut-être un peu plus stone, un peu moins demandeur, il va moins téter, la montée de lait ne va pas se faire assez tôt, etc. Ça peut être un engrenage qui va très vite, donc c'est vraiment important de le prendre en compte. Pour cela, ça va vraiment être important, qu'il ait reçu des traitements ou pas, de proposer le sein. Dès qu'il y a des signes d'éveil ou qu'il est en éveil calme, ce qu'on appelle. De toute façon, il ne faut pas chercher midi à 14h. Si un bébé est énervé, donc qu'il a passé la phase d'éveil calme et qu'il passe en éveil actif agité, plus exactement d'ailleurs, globalement s'il pleure, quoi. Donc s'il est énervé, il va vraiment être important de le calmer avant. Ça ne sert à rien de mettre un bébé énervé au sein, il va s'énerver sur le sein, ça ne va absolument pas renforcer le positivisme du truc. Donc, on le calme, on le berce et ensuite, on le repose sur soi et le bébé va aller retrouver le sein tout seul, comme un grand. Notamment si vous êtes en biological nurturing, c'est-à-dire incliné un peu vers l'arrière. Bref. On reprend de la base. Le colostrum, il est donc blanc, blanc transparent, voire jaune, crémeux. Alors, ça, c'est vraiment... Ça va du tout au tout. Hein. Ça va vraiment donc du blanc transparent au jaune crémeux quand même. On a une belle palette au milieu. Que le lait, pour savoir quand est-ce que va se faire la montée de lait, c'est facile à reconnaître, quand le lait devient vraiment blanc, limite bleuté, c'est du lait. Il faut savoir par contre que selon votre alimentation, il va pouvoir devenir vert, rose, bleu. Donc, alors c'est à la fois drôle et en même temps, c'est à savoir. C'est bon. Si le lait est rose, alors bien sûr, vous pouvez avoir une mastite maltraitée avec du sang, etc. En pratique, si tout va bien et juste vous avez mangé des betteraves la veille, votre lait est rose parce que vous avez mangé des betteraves la veille. Tout va bien. Le lait, il est fabriqué et stocké dans le sein. Et ensuite, il sera éjecté lors de la tétée grâce à l'ocytocine, cette fameuse hormone. Puisqu'il va y avoir stimulation du mamelon, donc qui est l'une des zones de stimulation de l'ocytocine. L'ocytocine étant responsable des réflexes d'éjection du fœtus, réflexes d'éjection de l'éjaculation chez l'homme et donc réflexe d'éjection du lait pour les seins. Pour reconnaître un réflexe d'éjection, il y aura des petits picotements, une sensation de déborder, voire quand l'éjection va se faire avec le bébé qui tète par exemple le sein droit, et ben du lait va couler du sein gauche. Au tout début, vous allez également pouvoir le sentir, ce réflexe d'éjection, puisque l'ocytocine est également responsable de la contraction de l'utérus. L'utérus, il va se contracter à chaque tétée pour chercher à reprendre sa place. Et c'est totalement normal. On appelle ça les tranchées et ça peut faire super mal les premières minutes de tétée. Après, Dieu merci, la tétée va libérer d'autres hormones, dont les endorphines, qui vont permettre de calmer la douleur. Pour revenir sur le poids, donc ce bébé, il a perdu du poids, très bien, mais la montée de lait s'est faite, parfait, et donc il va commencer à prendre du poids. Il faut savoir qu'il y a une différence entre un garçon et une fille. Voilà. Alors, c'est pas sexiste, c'est pas la question. N'empêche qu'il y a eu pas mal d'études qui ont montré que une petite fille prend moins de poids qu'un petit garçon. Une fille prend en moyenne 190 grammes par semaine et un garçon environ 230 grammes par semaine les 3 à 4 premiers mois. Après, ça va un peu diminuer, mais n'empêche que ça fait quand même pas mal, mine de rien. D'ailleurs, si vous vous inquiétez parce que votre enfant régurgite et qu'il ne prend pas assez de poids, il faut quand même savoir que régurgiter, c'est physiologique. La première semaine, voire jusqu'à ce qu'il tienne assis, donc 4-6 mois, tranquille. Idéalement, pour compenser ça, c'est juste un petit clapet qui ne ferme pas chez les bébés, enfin, pas bien chez les bébés. C'est ce qui fait que adulte, quand ça ne ferme plus aussi bien, les personnes ont des brûlures à l'œsophage, avec des remontées acides, des choses comme ça. Bon, mais en fait, les bébés ont la même chose, un clapet qui ferme pas trop bien. C'est normal, c'est le temps que ça devienne bien élastique, que tout se mette bien en place dans son corps. Mais du coup, la solution, ce sera de garder votre bébé contre soi, donc avec la tête plus haute que le ventre, environ 20 minutes après chaque tétée. Et de ne pas avoir des vêtements trop serrés sur son ventre. Oui, parce que si ça serre le ventre, ça engage à remonter. Donc, avec ça, normalement, vous avez deux petites astuces et les régurgitations devraient un peu diminuer, sachant que dans tous les cas, ça reste normal. Une autre chose qui peut être normale, mais beaucoup plus désagréable, c'est un canal bouché. Ça fait globalement comme une boule ou un point douloureux dans le sein. Je vous le disais tout à l'heure, le lait, il est produit dans le sein. Alors techniquement, il est même produit dans les canaux lactifères. Les canaux lactifères, ils arrivent au niveau du mamelon, hein, par un petit canal, et tout au bout, il y a une espèce de grosse framboise, petite framboise d'ailleurs, qui contient donc dans chaque petit grain de la framboise du lait. Et au milieu, si le canal est bouché, bah en fait, il y a quand même du lait d'un côté, mais qui ne peut pas sortir. Et voir, ça continue un peu à être produit. Donc, c'est pas top, pas top. Ça va faire une boule qu'on va sentir soit à la main, soit par la douleur. Et là, c'est moins cool. Et notamment, ça peut dégénérer vers une mastite, vers un abcès, avec une espèce de syndrome grippal, ce genre de choses. Simplement parce que le lait ne circule plus librement. Sachant que c'est... Alors, dans l'idéal évitable, bien sûr, il y a plein de choses à faire. Par exemple, éviter les soutiens-gorge à baleine. C'est vraiment très mauvais. Ça bloque en fait certains canaux qui sont vers le bas. Donc ça, c'est pas très cool. Bien boire. Et oui, parce que si vous buvez pas assez, pareil, ça peut compliquer le bazar. Et si vous avez un tire-lait, il est vraiment important que les tétrailles soient bien adaptées. Et pareil, après, il y a plein de solutions pour faire passer un canal bouché. Alors, le chaud pour dilater les canaux, donc ça peut être une bouillotte, ça peut être la douche chaude, etc. Le chou. La feuille de chou fonctionne très bien. Je vous mets l'étude. Allaiter. Ça va vraiment être important. Il ne faut jamais arrêter d'allaiter sur le sein avec un canal bouché. Ça va vraiment être important de le déboucher, ce canal. Et il n'y a personne qui fasse mieux ce job qu'un bébé. Et si besoin, bien sûr, consulter une conseillère en lactation, quelqu'un qui a une formation en lactation, ça peut être une doula, ça peut être une IBCLC, ça peut être quelqu'un qui a fait le DU en lactation, etc. Juste après la naissance, plus le bébé reste en peau à peau sur sa mère, plus il a de chance de trouver le sein seul. Alors déjà ça, moi j'adore, déjà parce que c'est vrai, et en plus parce que c'est trop rare de l'entendre. Et de même, si vous pouvez limiter les visites. L'énergie du bébé, elle est dosée, mais genre vraiment juste ce qu'il faut, pour qu'il se nourrisse et grandisse. Et l'allaitement, pour rappel, ça consomme 30% de votre énergie. Donc les longues visites, elles sont plutôt à éviter, sauf si c'est des visites d'aide, donc qu'il y ait des personnes qui viennent vous faire le ménage, la lessive, la cuisine, etc. Bien sûr, celles-là, on les garde, quoi. Et enfin, elle parle du biological nurturing, c'est-à-dire la position physiologique prise par automatisme par les femmes qui n'ont pas reçu de consignes. Et ça, je trouve ça tellement beau. C'est une position demi-inclinée avec un bébé posé sur vous. Et le bébé pourra exploiter ainsi toutes ses capacités et tous ses réflexes pour se mettre au sein tout seul. Cette semaine, j'ai choisi un extrait qui est un témoignage du chapitre « L'allaitement partagé ». Gretchen, Quand j'attendais mon premier enfant, ma sage-femme m'a posé une question typique des cours de préparation à la naissance. Avez-vous l'intention d'allaiter ou de donner le biberon ? Interloquée, je me suis tournée vers mon mari pour qu'il me guide, vu que c'était son troisième enfant, et que pendant ma grossesse, je m'appuyais beaucoup sur son expérience. Il m'a clairement encouragée à au moins essayer d'allaiter. Le problème, c'est que je ne savais pas ce que c'était l'allaitement. Ma sage-femme a suggéré que je participe à une réunion de la lechélique pendant ma grossesse, ce qui me permettrait de poser des questions aux animatrices. Et quelques jours plus tard, je me suis retrouvée dans la salle de réunion d'une bibliothèque, entourée de femmes qui nourrissaient leurs bébés, non pas avec des biberons, c'est-à-dire de la manière dont je pensais qu'on nourrissait tous les bébés, mais avec leurs seins. Jusqu'à cet instant, je ne savais absolument pas que les seins étaient faits pour nourrir les bébés. Je ne savais même pas que nous pouvions nourrir des bébés avec nos seins. C'est quelque chose qu'on ne m'avait tout simplement jamais dit, ou alors je ne m'en souviens pas. Et je n'ai pas le souvenir non plus d'avoir vu une femme allaiter son bébé avant cette toute première réunion à l'LL. J'avais 20 ans et je découvrais ce pourquoi les seins étaient réellement conçus. Je me suis renseignée davantage sur l'allaitement et j'ai décidé d'essayer. Je me donnais un objectif d'un an et pas plus. J'ai en fait allaité mon premier bébé 2 ans et demi, y compris pendant une grossesse. Et il s'est sevré alors que sa sœur avait 9 mois. Et elle avait elle aussi 2 ans et demi quand elle s'est sevrée à son tour. Je n'aurais jamais imaginé à quel point l'allaitement serait important pour moi et je suis heureuse d'avoir un mari qui m'a aidée à découvrir ce pourquoi les seins sont faits. Alors voilà, on va se quitter, il est temps de vous donner mon avis. Alors un petit moins, elle parle de l'emmaillotage, sauf que l'emmaillotage, il limite vraiment les réflexes pour l'allaitement, donc c'est pas forcément recommandé. Par contre, elle parle de l'expression manuelle, elle parle du biological nurturing, elle parle de l'allaitement partagé et du co-allaitement, donc ce livre, il est vraiment riche de tout ça. Et c'est vraiment un livre que j'ai apprécié.
C'était Aurore Lebec sur Doula Lire, le podcast qui informe par une doula qui écoute. Aujourd'hui, je vous ai présenté
Le guide de l'allaitement naturel, nourrir son enfant en toute liberté, de Ina May Gaskin aux éditions Mama Édition.
Si vous avez aimé, vous pouvez le partager et lui mettre une note, vous pouvez même lui mettre 5 étoiles, ça lui permettra de se faire connaître encore plus. Et si vous êtes intéressé par un livre, si vous hésitez à en acheter un, etc., vous pouvez me le mettre en commentaire pour que je le synthétise prochainement. À mercredi prochain !